Au micro, Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. La société américaine de biotechnologie Moderna, qui a annoncé des résultats encourageants pour son vaccin expérimental, a appelé les États européens à passer commande rapidement, les délais de livraison variant de 6 à 9 mois. La pandémie a fait dans le monde, selon un bilan de l'AFP, au moins 320 255 morts pour près de 4,9 millions de cas depuis son apparition en décembre en Chine. Et ici aux États-Unis, elle a causé un total de 91 845 décès pour plus de 1,5 million de cas, dont plus de 1536 morts au cours des dernières 24 heures selon l'université Johns Hopkins. Et de fortes hausses de cas ou de morts ont été enregistrées en Amérique latine, au Brésil, au Chili et au Nicaragua. Le président du Cameroun, Paul Biya, s'est exprimé mardi soir à la télévision pour la première fois depuis le début de l'épidémie du coronavirus dans ce pays, rompant ainsi un silence médiatique de plus de 2 mois, très critiqué par l'opposition. M. Biya a appelé au respect des mesures prises par le gouvernement. Il a également demandé aux Camerounais de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux. Des millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté extrême en Afrique avec la pandémie de COVID-19, a souligné ce mercredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant à une solidarité internationale accrue avec ce continent où le virus a fait plus de 2500 morts. Pour quelque 88 000 cas. En République démocratique du Congo, le gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a prévenu hier que la crise du COVID-19 ne doit pas nous faire oublier les atrocités qui se poursuivent dans l'est du pays, dans l'indifférence. Les massacres sur les populations civiles se poursuivent en Ituri et au Nord Kivu, a accusé le médecin congolais dans un communiqué. RDC toujours, un policier a été tué mardi par des manifestants qui protestaient contre l'insécurité dans la ville minière de Kolwezi, dans le sud-est du pays, après le meurtre de 2 personnes par des bandits. Selon l'AFP, 2 jeunes ont été tués chez eux par des bandits dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'ils voulaient défendre leur mère. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a gracié 400 détenus pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, dont le prêcheur Bandjougou Doumbia, arrêté en février et récemment condamné à 2 ans de prison pour des propos polémiques, notamment l'apologie des chefs djihadistes Iyad Aghali et Amadou Koufa. Il y a officiellement au Mali environ 1500 cas et 53 décès. Toujours au Mali, 100 de personnes ont manifesté mardi à Bamako pour dénoncer l'arrestation début mai du professeur Clément Dambélé, un militant anticorruption, l'une des principales voix de la société civile malienne. Il a été arrêté le 9 mai pour incitation à la violence, selon une source de l'AFP. Au Bénin, le journaliste d'investigation Ignace Soussou a été condamné mardi par la cour d'appel de Cotonou à une peine de 12 mois de prison, dont 6 mois ferme avec une amende de 500 000 francs CFA pour harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'a annoncé son avocate. Au Niger, le ministère de la Défense a annoncé hier soir que 12 soldats nigériens ont été tués et 10 blessés dans la nuit de lundi à mardi au cours de l'attaque par des terroristes Boko Haram du poste militaire de Blabrin dans le sud-est du pays. 7 terroristes ont été neutralisés lors de la poursuite engagée par les forces armées, ajoute-t-on dans un communiqué. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC au micro. suite de nos informations, plus de 5 millions d'électeurs au Burundi se rendent aux urnes ce mercredi pour des élections générales destinées à choisir le successeur du président Pierre Nkurunziza, malgré la pandémie de Covid-19. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le président sortant Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, a annoncé qu'il ne se représente pas. L'un des défis immédiats de son successeur sera de contenir la propagation du coronavirus, même si le pays ne compte qu'une quarantaine de cas confirmés. L'élection présidentielle met aux prises 7 candidats, dont celui du CNDD-FDD au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye. Concernant le coronavirus, il demande aux Burundais de ne pas avoir peur, car selon lui, Dieu aime le Burundi. Son principal challenger, l'opposant Agathon Rwasa, a mobilisé les foules tout au long de la campagne. L'ancien chef du FNL, groupe rebelle Hutu, se dit sûr de gagner. Il a aussi averti que le peuple ne se laissera pas voler la victoire, ce qui fait craindre des violences dès l'annonce des résultats. Le scrutin se déroulera sans observateurs étrangers.
Le premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, a officiellement présenté mardi sa démission qui met un terme à la crise politique suscitée par sa mise en cause dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017, Ekia Badou.
Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous annoncer que le travail dont vous m'avez chargé n'est peut-être pas achevé, mais que le temps est arrivé pour moi de me retirer du théâtre des opérations, de quitter la voie publique et mes fonctions. A déclaré M. Tabane lors d'un discours télévisé. Le chef du gouvernement avait annoncé lundi son départ à la retraite lors d'une brève intervention devant la presse. Au pouvoir depuis 2017, M. Tabane, 80 ans, était sur la sellette depuis que la justice l'a soupçonné au début de l'année d'avoir participé à l'assassinat de son ex-femme, Lipolelo Tabane, quelques jours avant de prendre ses fonctions. Son propre parti et la coalition qu'il avait soutenue l'ont lâché, mais l'octogénaire s'est accroché à son poste. Il a fallu que la coalition lui retire son soutien il y a une semaine et annonce que le Parlement va se réunir pour approuver la nomination d'un successeur, l'actuel ministre des Finances, Moeketsi Majoro.
Face aux accusations et aux menaces américaines, les 194 pays membres de l'OMS ont décidé de lancer une évaluation indépendante de la réaction de l'agence onusienne à la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 318 000 morts dans le monde, Claire Morin-Gibourg.
Cette évaluation devra passer au crible. Les mesures prises par l'OMS pour faire face à la pandémie de Covid-19 et leur chronologie. Cet accord, trouvé avec l'aval de la Chine et des États-Unis, se veut une réponse aux accusations du président Donald Trump qui juge que l'OMS est une marionnette de Pékin. Si l'OMS ne s'engage pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours, je vais transformer la suspension temporaire du financement de l'OMS en une mesure permanente et reconsidérer notre qualité de membre au sein de l'organisation, a tweeté le président américain. Les États-Unis sont le premier contributeur de l'OMS et ont déjà suspendu leur contribution financière. Pékin accuse M. Trump de chercher à se soustraire à ses obligations et à salir les efforts de la Chine face à l'épidémie. La résolution adoptée mardi prévoit que l'enquête peut prévoir des missions scientifiques et de collaboration sur le terrain. La Chine s'est déclarée ouverte à une enquête indépendante, mais pas avant la fin de la pandémie.
La Minute Éco et qui aborde.
L'Afrique fait actuellement face à un défi supplémentaire face à la pandémie de coronavirus. Les pays du continent doivent trouver entre 50 et 60 milliards de dollars cette année et un peu plus en 2021 pour faire face à leurs obligations internationales. Une pression supplémentaire alors que la région qui importe une part importante de ce qu'elle consomme puise déjà beaucoup dans ses réserves de change. Le règlement des factures d'importation, tout autant que le remboursement des dettes privées et publiques à l'international, se font en devises et majoritairement en dollars américains ou en euros. Pour cela, tous les pays et toutes les régions dans le monde doivent mobiliser des ressources dans ces deux monnaies qui dominent les échanges internationaux. Or, la pandémie liée au coronavirus et les mesures de confinement qui ont été imposées ont négativement impacté les trois principales sources de revenus en devises pour l'Afrique. On a assisté à un repli de l'activité mondiale, ce qui a réduit la consommation internationale et la demande en matières premières, qui sont les principaux produits vendus par l'Afrique sur le marché international. 40% des revenus en devise de la région sont générés par la vente du pétrole. Or, le prix de cette ressource est deux fois inférieur aux prévisions des budgets des pays qui en sont producteurs et exportateurs. Aussi, le ralentissement et même l'arrêt des activités de production dans divers pays industrialisés a fait baisser la demande en matières premières minières et agricoles.
Restons à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Accord trouvé entre la Fédération nigériane de football et le technicien Gernot Rohr. Le germano-français va signer la semaine prochaine une prolongation de son contrat de sélectionneur de l'équipe du Nigeria. Ce nouveau contrat sera d'une durée de 2 ans, avec comme objectif pour Rohr de qualifier les Super Eagles pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et le Mondial 2022. Le contrat actuel du sélectionneur expire le mois prochain. Rohr, âgé de 66 ans, entraîne depuis 2016 l'équipe nationale du Nigeria, qui l'a mené jusqu'aux phases finales du Mondial 2018 et de la CAN 2019 en Égypte. Le Nigeria a terminé à la 3e place de cette dernière CAN. En Europe, la Premier League a annoncé que la première vague de tests de dépistage du coronavirus a révélé 6 cas positifs dans 3 clubs différents sur 748 échantillons. Les joueurs ou membres du staff testés positifs vont maintenant s'auto-isoler pendant 7 jours, a ajouté l'organisatrice du championnat anglais de football, qui ne nomme ni les joueurs ni les clubs touchés. Ces résultats interviennent alors que les 20 clubs de l'élite anglaise ont voté pour la reprise des entraînements par petits groupes en continuant de respecter des mesures de distanciation physique. Mais ils espèrent rapidement pouvoir passer à des entraînements complets avec contact pour mener à bien leur projet de terminer la saison entre la fin juin et le mois de juillet. En cyclisme, l'ancien champion déchu américain Lance Armstrong a révélé qu'il avait commencé le dopage à partir de 21 ans. Lors de sa première saison en tant que professionnel, il a fait cette affirmation dans une bande-annonce d'un documentaire intitulé « Lance » qui sera diffusé par la chaîne américaine ESPN les 24 et 31 mai. Armstrong a dominé le cyclisme professionnel dans les années 2000 et a remporté le Tour de France 7 années de suite de 1999 à 2005. Il a ensuite été déchu de ses titres et banni à vie de ce sport en 2012. Après que l'agence américaine antidopage a déterminé qu'il était la figure clé d'un programme de dopage sophistiqué au sein de l'équipe des services postaux américains. Basketball, pour finir, des maillots dédicacés des Los Angeles Lakers de Kobe Bryant et les baskets portés dans les principaux matchs de la NBA par la légende de la balle au panier seront mis aux enchères demain à Beverly Hills en Californie. Bryant a été le premier athlète à laisser ses empreintes sur Hollywood Boulevard aux côtés de certaines des plus grandes stars de l'industrie du cinéma. Une copie de ses empreintes sera mise en vente chez Julian Auction. Bryant est décédé dans un tragique accident d'hélicoptère le 26 janvier hors de Los Angeles avec sa fille de 13 ans Diana et 7 autres personnes. D'après la maison des enchères, la vente était déjà en préparation avant la mort de Kobe Bryant.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, les artistes sont durement touchés par le Covid-19. De la perte de monuments comme Manu Dibango au chômage forcé, le monde des arts est l'un des secteurs qui souffre le plus de cette pandémie. Et pourtant, cela ne les empêche pas de mettre leur notoriété au profit de la lutte contre la maladie en s'activant dans la sensibilisation. Comment les artistes vivent-ils cette situation causée par le nouveau coronavirus? Sont-ils soutenus par leur gouvernement? Nous allons en discuter avec nos invités le jeudi 21 mai 2020 à 19h temps universel sur voafrique.com.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Gros plan sur les élections générales qui ont lieu ce mercredi au Burundi en dépit de l'épidémie de Covid-19. Le scrutin qui devra désigner le successeur du président Pierre Nkurunziza oppose deux anciens rebelles. L'opposant Agathon Rwasa et le général Évariste Ndayishimiye, le candidat du pouvoir. Quels sont les enjeux de cette élection dans ce petit pays de 11 millions d'habitants secoué par la violence depuis plusieurs années? Bagasikura a joint Athanase Karayenga, journaliste et analyste politique du Burundi basé à Paris.
Ce sont des enjeux énormes, absolument énormes. C'est des élections qui peuvent déclencher une guerre civile atroce. Des élections aussi qui peuvent donner une chance absolument nouvelle au Burundi de tourner la page du CNDD-FDD pacifiquement, démocratiquement. Nous sommes vraiment, au bord du gouffre où nous aurons la chance de ne pas faire le pas d'avant, où nous prendrons le malheur de faire ce pas d'avant, et ça sera vraiment l'apocalypse. Ceci dit, l'opinion n'est jamais certain, mais le risque est énorme, absolument énorme.
Alors, pour beaucoup de gens, le Burundi est un pays à un système fermé. Il n'y a vraiment pas de chance pour Agathon Rwasa de gagner. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Non, je crois que c'est excessif, parce que c'est vrai que le pouvoir a fait tout pour verrouiller, a fait tout pour faciliter la fraude, a utilisé tous les moyens pour dissuader, pour dire à tous les autres candidats, pas seulement à Agathon Rwasa, qu'aucun autre candidat ne peut briguer illégalement la présidence de la République. Mais on a vu tout de même un peuple absolument mobilisé, un peuple qui croit beaucoup à la démocratie. C'est tout de même une très belle image que le Burundi peut envoyer dans le monde entier. Le prix à payer.
Oui. Alors, un mot sur ces deux candidats qui viennent tous du maquis.
Oui, c'est un passage malheureusement obligé. Parce que le maquis a produit un parti politique qui avait gagné en 2005 au sein des FDD. Le maquis a produit aussi un parti, un courant politique qui s'est palpé autour, FNL, mais qui est devenu le CNL. Mais tout de même, les deux parcours s'arrêtent, plutôt le parallèle s'arrête là, parce que le candidat ici du Palpeusu du CNL, donc Agathon Rwasa, a fait une métamorphose absolue. Il a complètement changé, il n'a plus du tout le discours du maquis. Il parle du Burundi ouvert à tous les citoyens, un Burundi apaisé, un Burundi qui fait rentrer les réfugiés, un Burundi qui se lance dans des projets de développement économique, parce qu'il dénonce la paupérisation, alors que en face, c'est malheureusement le bilan accablant du CNDD-FDD que Évariste Ndayishimiye porte.
Athanase Karayenga, journaliste et analyste politique du Burundi, basé à Paris.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Retour sur le récent drame de Fadangourba au Burkina Faso. Des proches ont fait état d'exécutions sommaires par les forces de l'ordre burkinabé au sujet de la mort de 12 personnes interpellées pour suspicion de faits de terrorisme. Le 13 mai dernier, le procureur de Fadangourba avait annoncé la mort, dans la nuit, de ces 12 personnes parmi 25 dans leur cellule de la gendarmerie à Tanwalbuku. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des notés a déjà réclamé une enquête spéciale et la saisine de la justice internationale. Bagasikoura s'est entretenu avec le chercheur Baba Dakono à l'Observatoire pour la gouvernance et la sécurité de Bamako.
Déjà, je pense que ce sont les communautés peut-être que majoritairement peules qui sont victimes de ces abus, de ce qui est qualifié d'exaction par certains acteurs humanitaires, mais c'est pas que les peuls, c'est toutes les communautés qui sont établies dans ces localités-là qui sont aujourd'hui victimes de ces abus de forces de défense et de sécurité. L'explication, c'est que ces forces de défense et de sécurité sont déployées dans des localités, dans des environnements où ils ont très peu de connaissances de la sociologie, et le fait que la menace perdure, les dysfonctionnements même au sein des appareils d'État font qu'aujourd'hui on assiste à ces formes d'abus et ces formes d'exactions, que ce soit au Mali ou que ce soit au Burkina. Et il est important de rappeler que c'est vrai que majoritairement ces victimes sont des peuls, mais ce ne sont pas les seules victimes de ces abus.
Alors, plus il y a des exactions, plus ça rend le travail de sécurisation difficile, non?
Oui, absolument. Et surtout qu'on est dans un contexte où il est impératif d'avoir le soutien, l'accompagnement, la collaboration des communautés dans le cadre de la lutte et même de la prévention de l'extrémisme violent. Donc, ce sont ces actions ou ces faits qui sont qualifiés d'abus ou d'exactions contribuent à exacerber les rapports déjà difficiles entre communautés et FDS dans ces localités. Parce que il y a plusieurs niveaux dans ce qui se passe. Le premier, c'est que la tentation est grande quand ça se passe au niveau sur le terrain d'étouffer ces affaires-là. Ensuite, le traitement politico-médiatique qu'on fait de ces exactions-là n'est pas forcément productif pour essayer de trouver les solutions, parce que en pointant du doigt ces exactions d'un point de vue médiatique, on ne fera que braquer davantage les États. Et il est très important de réfléchir sur comment on est arrivé à cette situation. Ce n'est pas en pointant du doigt les responsabilités, que ce soit des États ou des FDS, qui fera que c'est de tel type ou de faits de ce type-là s'arrêteront, mais véritablement en prenant en compte, comme je le disais, la non-connaissance ou l'incompréhension du contexte et de l'environnement dans lequel intervient ces FDS, c'est une partie de solution, parce que finalement, c'est le résultat, ces exactions ou ces abus sont le résultat d'un processus beaucoup plus complexe, beaucoup plus long et qui s'est ancré dans des pratiques au fil du temps.
Le chercheur Baba Dakono à l'Observatoire pour la gouvernance et la sécurité de Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
La décision du Sénégal de rouvrir les lieux de culte alors que le pays est toujours aux prises avec la pandémie de coronavirus a divisé les communautés religieuses. Certains musulmans ont salué la possibilité de prier à la mosquée au cours de la dernière semaine du mois du Ramadan, mais d'autres craignent qu'il soit trop tard. Le pays compte environ 2500 cas et au moins 25 décès. Reportage d'Estelle Djanjo à Dakar, relaté par Nathalie Barnes.
La réouverture des mosquées pour la dernière semaine du Ramadan a été bien accueillie par des milliers de fidèles à la mosquée Emma Sadikou Jinan lors de la prière du vendredi. Même si les exigences relatives à la distanciation sociale et aux mesures sanitaires restent en place, les musulmans sénégalais ne sont pas tous désireux de retourner à la prière de groupe, remarque Adja Famalo, coordonnatrice de la salle de prière des femmes.
Beaucoup de personnes qui ont peur de cette maladie, qui ont peur de venir attraper ou bien de je ne sais pas quoi, mais ils ont peur. Parce qu'à cette heure-là, la mosquée était pleine. Mais maintenant, on vient petit à petit. Bon.
De nombreux musulmans, comme Philippe Baye, un programmeur de 26 ans, préfèrent continuer à prier chez eux pour réduire les risques de contracter ou propager la maladie Covid-19. Pour lui, la prière de groupe se fera en ligne jusqu'à ce que le coronavirus soit sous contrôle.
C'est un moyen, effectivement, qui permet d'être, de faire son ramadan en sécurité, de manière sûre. Mais aussi, je me dis que ça apporte une certaine dose de spiritualité en plus à ce ramadan-là. Parce qu'en étant seul, c'est vrai que c'est un peu compliqué et qu'il y a des gens qui vivent des choses.
Plusieurs imams ont choisi de ne pas rouvrir les mosquées par souci de contrôle des foules, comme Amadou Kanté, imam de la mosquée.e.
Nous, on a préféré être prudent pour que, d'ici le ramadan, on va voir comment ça évolue, qu'est-ce que les autorités sanitaires nous disent, et en ce moment, on pourra, pourquoi pas, on pourrait même reporter encore la reprise si les cas deviennent trop critiques. Mais par contre, si on dit qu'il y a une baisse, qu'il y a la dynamique n'est pas à la hausse, on pourrait...
Les églises catholiques du Sénégal ont également choisi de fermer leurs portes. Mais la fermeture des lieux de culte n'empêche pas les croyants de prier ardemment pour la fin de la pandémie de coronavirus qui a bouleversé la vie sociale des Sénégalais comme celle du reste de la population mondiale.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Alors que les États-Unis et d'autres pays commencent à lever petit à petit les restrictions mises en place pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, le quotidien post-quarantaine sera marqué par de nombreux changements. Selon les experts, les masques et la distanciation sociale ne disparaîtront pas de sitôt. Et même si les salles de sport et les restaurants commencent à rouvrir, leur capacité sera réduite de moitié. Ces mesures et d'autres feront partie de la nouvelle normalité mondiale, du moins jusqu'à ce qu'un vaccin contre la maladie soit trouvé. Dili Diko.
Plus de la moitié des États américains lèvent les mesures de confinement et rouvrent lentement leur économie. De nombreuses plages en Floride et en Californie sont ouvertes, de même que les restaurants, les magasins, les salons de beauté et les salles de sport à travers le pays. Mais pour rouvrir, les commerces doivent souscrire à des règles strictes. Distanciation physique et port de masques faciaux. Écoutons Summer Maggie, doyenne de la Faculté des sciences de la santé à l'Université de New Haven. Si j'allais dans un restaurant et que je voyais que la réceptionniste ou le serveur ne porte pas de masque ni de gants, je ne mangerais probablement pas. Dans les salons de beauté, les magasins et les transports en commun, les masques sont indispensables. Cette pratique, apparue en réponse à la pandémie, ne va pas disparaître d'aussitôt. Lors de pandémies précédentes, certaines mesures qui paraissaient étranges au début sont devenues des normes sociales et des habitudes. James Holland Jones travaille à l'Institut pour l'environnement, Sanford Woods.
Spitting was just a natural part of the American urban landscape and...
Autrefois, tracher en public était un comportement normal aux États-Unis, mais cela a disparu suite à la grippe espagnole de 1918. De même, avant, les fontaines à eau étaient accompagnées d'une tasse commune. Les gens trouvaient ça normal, mais cela a complètement disparu. Les pandémies ont eu des effets durables. La distanciation sociale est une pratique qui ne disparaîtra probablement pas bientôt, que ce soit dans une salle de sport, à la plage ou lors d'une promenade dans le parc. Écoutons à nouveau Summer Maggie, doyenne de la Faculté des sciences de la santé à l'Université de New Haven. Ce qui est compliqué dans les salles de sport, c'est qu'il est difficile d'y porter un masque. Vous y respirez fort. Vous ne voulez pas ne pas être en mesure de respirer pendant que vous courez ou que vous utilisez un stepper. Je pense que cela va être un défi. Mais si les salles de sport parviennent à espacer suffisamment les machines, alors nous pourrions probablement les rouvrir en toute sécurité. Donner la main sera également mal perçu, tout comme les accolades et les bises. Selon les médecins, si quelqu'un ignore ces nouvelles règles, il est important de lui expliquer pourquoi vous tenez à garder vos distances. Malgré la levée de certaines mesures de confinement, les médecins encouragent les gens à rester chez eux et à éviter les déplacements inutiles. Avec l'été qui approche, un bon nombre d'entre eux sont très impatients de sortir et de reprendre une vie normale. Rien ne peut dissuader les plus téméraires. ni les masques, ni les mesures de distanciation sociale.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoulia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.